Ok. Bon. Alors. Bon. Pour tout le monde, moi, c'est Pascal. Je vais donner une présentation sur LinkedIn aujourd'hui. Mais juste question de se mettre en contexte. En ce moment, bon, on est face à une crise financière d'une ampleur. En tout cas, jamais imaginé par les personnes aujourd'hui qui sont en fait appelées, vu leur position dans les gouvernements, dans différents mouvements politiques, à y faire face puis à trouver une solution à ça. Maintenant, va falloir justement éduquer la population sur l'économie, puis éduquer ces milieux-là politiques. Parce qu'ils ne semblent pas avoir encore trouvé la solution. Face à ça, bon, Larouche a émis un communiqué de presse il y a en fait 3 semaines, un mois, pour dire que le système financier était rendu à un point de rupture, un point de crise, où justement le dollar américain était dans une situation d'effondrement. Mais là, pas juste une crise ou une dépression, une récession prolongée, comme les économistes ont dit, mais vraiment l'effondrement total du dollar américain par le mois d'octobre. C'est-à-dire, il est donné une genre de période tampon entre le 1er octobre, la fin de l'année fiscale américaine, et le 12 octobre, pour dire que ça serait une période où on aurait des comptes rendus publics de ce qui s'est passé depuis l'année passée, depuis que le bail-out, le renflouement bancaire a été passé par le Congrès américain, et depuis que les banques se sont mises à faire faillite. On aurait un compte rendu public qui mettrait tout le monde sans dessus dessous et qui ferait en sorte de déclencher vraiment une crise à l'échelle planétaire. Donc face à ça, c'est là où en fait l'exemple d'Abraham Lincoln est vraiment important. Parce que face à une crise de cette ampleur-là, quel genre de leadership est nécessaire? C'est quoi la qualité de l'esprit d'un dirigeant nécessaire, qui est nécessaire pour se sortir de cette crise-là? Et Larouche a fait preuve de ce leadership-là en disant, OK, on est face à une crise, appliquons la solution qu'on a mise de l'avant depuis 2007, mettons le système en banqueroute au niveau international, faisons-le à l'aide des lois constitutionnelles américaines. Et pas seulement ça, mais là, il va falloir commencer à penser aller coloniser l'espace. Donc, c'est ce genre de leadership là où, contrairement à ce que nous on propose, à ce que Larouche propose, ah ben attends, je vais juste terminer. Contrairement à ce que Larouche propose, les membres en ce moment dans le milieu politique, dans le milieu financier, les gens s'accordent pour dire que on peut rien faire. Il faut financer, il faut continuer les bail-outs, il faut renflouer les banques avec l'argent public, et puis il faut réduire le déficit. C'est pas le temps d'aller mettre de l'argent pour des hôpitaux ou quoi que ce soit. C'est le temps de réduire les dépenses budgétaires. Donc, on est face, en fait, à une politique d'austérité qui, non seulement va pas nous sortir de la crise financière actuelle, mais qui va encore plus nous plonger dedans, qui va tuer des vies humaines, détruire les vies humaines. Donc, face à ça, c'est intéressant de voir la bataille que Lincoln a menée, parce que c'était pas une bataille simplement pour gagner le Nord contre le Sud. C'est une bataille contre les intérêts financiers qui voulaient justement empêcher le développement de nations souveraines au niveau international, qui était représenté à l'époque par le développement de la République américaine. Et Larouche, quand il a émis son mémorandum, a spécifié que non seulement il fallait mettre le système en faillite, mais il fallait aussi retourner à la tradition américaine d'un système bancaire dans la tradition d'Alexandre Hamilton. Et ça, Lincoln le comprenait très bien. Donc on va explorer ça un peu pour voir comment cette situation-là qui peut nous sembler être passée, être très loin dans nos mémoires, s'appliquer directement à ce qui se passe en ce moment. Parce que face justement à un moment qui serait un moment, dans le fond, terrible pour l'histoire humaine, un moment de crise grave, il faudrait pas que ce grand moment trouve sur son chemin des petits hommes. Pour utiliser les mots de Frédéric Schiller en parlant de la Révolution française, qui n'a pas très bien tourné, mais Mathieu a fait une classe là-dessus. Je ne vais pas élaborer. Mais, donc, ça c'est les États-Unis, hein, dans lequel Lincoln. Est-ce que tu peux montrer ça? Ça, c'est les États-Unis à l'époque où Lincoln arrive au pouvoir. Donc déjà séparés en fait. Déjà d'une certaine manière scindés en deux. Mais ça, c'était pas, je sais pas pour ceux qui ont fait de l'histoire américaine un peu, mais c'est pas arrivé de manière immédiate, la rupture des États-Unis. En fait, c'est un ferment qui existait déjà au début du 19e siècle. Et on va retourner un peu en arrière pour voir c'était quoi la bataille à ce niveau-là. Mais l'intention, je pense, est bien exprimée dans une citation de Bismarck, qui était le chancelier allemand dans les années 1870. Est-ce que quelqu'un peut la lire? Vas-y, Pat.
The division of the United States into two federations of equal force was decided long before the Civil War by the high financial powers of Europe. These bankers were afraid that the U.S., if they remained as one bloc and as one nation, would attain economic and financial independence, which would upset their financial domination over the world.
Donc ça, c'est 11 ans après la victoire de l'Union sur les Confédérés. Et c'était quelque chose de connu, qu'en fait la guerre civile américaine, c'est pas juste une guerre civile américaine. C'est une guerre mondiale. C'est une guerre à savoir si le principe de la République, le principe du bien-être commun, allait demeurer en tant que tel, s'il y aurait un système de gouvernement pour le peuple, par le peuple et du peuple, qui serait justement conservé, et qui, en fait, non seulement serait conservé, mais détruirait la mentalité impériale qui était ancrée en Europe à ce moment-là. toujours aujourd'hui, en fait. Donc, Bismarck avait vu clair. Et c'était ça la tentative, c'était de faire en sorte qu'il n'y aurait pas de développement de république. Que les États-Unis... on va aller plus en détail là-dedans. Mais c'était bien connu... c'était bien connu de Bismarck à ce moment-là. Mais le débat aussi qui avait été lancé à partir du début du 19e siècle, fin 18e, début 19e, était aussi bien connu de Lincoln. Et il savait, en fait, il y avait une très bonne idée des forces en présence. De qui était, c'était quoi les intentions. Et donc, il y avait, ça c'est une citation de Lincoln, où il avait été invité à célébrer l'anniversaire de Thomas Jefferson à Boston par un groupe de démocrates, si on veut, à l'époque. Et face à l'invitation, bon, il avait dit qu'il ne pouvait pas y aller, mais il avait quand même envoyé une lettre de réponse dans laquelle il dit ça. Il dit, il y a 70 ans, deux partis politiques furent créés en ce pays, l'un mené par Thomas Jefferson et l'autre par Boston. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous saviez?
C'est juste Boston, juste.
Mm-hmm.
Boston étant comme le centre financier.
Ouais. Un des centres financiers importants dans le nord-est américain. Ouais, exactement. C'est que les intérêts. Si on veut, la bataille aujourd'hui, la manière que c'est présenté, c'est de dire, ok, d'un côté il y a Thomas Jefferson, puis de l'autre côté il y a Alexander Hamilton. Puis les deux étaient un contre l'autre, les deux n'arrêtaient pas de se chicaner, de se battre sur quel genre de politique devait être adopté pour les États-Unis, quel genre de politique serait bonne pour le développement des États-Unis. Puis, ça, c'est pas vraiment la bataille. C'est une mauvaise manière de voir le conflit qui régnait à l'époque, puis même le conflit qui règne encore aujourd'hui. Parce qu'il y a encore des gens qui quand j'étais à Détroit, en tout cas, quand on a commencé à organiser sur le comment mettre le système en banqueroute, à l'époque des bailouts, quand ça a commencé, on a eu les premiers renflouements bancaires, on disait, OK, il faut arrêter la folie. On ne peut pas renflouer les banques comme on vient de le faire. Il faut reprendre cet argent-là. Puis, il y avait des gens qui venaient à nos tables qui disaient, moi, je suis totalement d'accord avec vous. On ne peut pas faire ça. Il faut retourner à ce que Jefferson prônait. Il ne faut pas laisser les banques prendre le dessus du système, ça ne marchera pas. Et puis, ça amenait un paradoxe. Parce qu'en fait, c'était quoi l'interprétation, c'était quoi la manière de voir comment le système américain a été bâti dans l'esprit des gens qui venaient nous voir, comment eux se l'étaient fait expliquer à l'école, et comment ça existe encore dans la mentalité que c'était Jefferson contre Hamilton, mais que bon, Jefferson c'était le démocrate, c'était l'homme du peuple, et Hamilton c'était le gars des banques qui a bâti le système bancaire. Puis Lincoln, dans cette situation là en fait, montre qu'il y a un paradoxe, parce que c'était pas je vais juste vous montrer ça ici. Ça, c'était les deux partis au fondement des États-Unis, un peu après la fondation. Mais pour l'application de la Constitution américaine, il y avait eu un débat entre ceux qui s'appelaient les fédéralistes et ceux qui étaient anti-fédéralistes. Mais ils ont changé leur nom et ils se sont appelés les Democratic Republicans. Et ça, c'était comme les deux partis dont Lincoln faisait mention. Je ne sais pas si ce serait mieux de fermer la lumière ou si tout le monde le voit. Est-ce que tu peux montrer sur la caméra? Mais je vais donner une classe un peu plus développée sur ça. On va aller vite, mais le fait est que, comme Lincoln le disait, c'était pas Jefferson contre Hamilton. C'était en fait, d'une certaine manière, plutôt Jefferson et Hamilton contre les banquiers de Londres et de Boston, de New York. Et c'est là qu'on voit, dans le fond, que c'est justement, c'est pas noir ou blanc. Il y avait différentes factions. Mais, si on veut, Jefferson va se rallier du côté d'Hamilton, plutôt vers le tard, à la fin de sa présidence. Mais en fait, c'est les politiques de Hamilton qui vont être préservées et qui ont vraiment fondé les États-Unis. Donc, ça dit un peu vite ce qui se passait à ce moment-là, fin du 18e siècle, début du 19e. Et justement, si on veut regarder, si on veut comprendre un peu, la faction qui est de trahison aux États-Unis, on peut regarder justement les deux branches qu'on voyait rouges, et voir justement les différentes personnes qui ont transité dans ces factions-là, puis voir leur politique économique et l'impact que ces politiques-là ont eu sur les États-Unis. On va y revenir. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire du système américain? Quand on regarde les genres de politiques qui ont été mises en place, je ne sais pas si on peut amener la lumière, s'il te plaît, Rémi. Juste. Là, vite, je parlais du système américain, je parlais qu'il y avait des factions, des divergences d'opinion sur les politiques, tout ça. Qu'est-ce qui est américain en termes de politique? Qu'est-ce qui était compris comme étant américain, surtout, à l'époque, le début de la République américaine? Et qu'est-ce qui n'est pas américain? C'est quoi les politiques, c'est quoi les mesures appliquées qui font en sorte que ça l'est ou ça ne l'est pas? Je pose la question à tout le monde. Je sais que Rémi, il y a une des réponses.
Oui, mais les cartes semblent vraiment être brouillées parce que...
Ouais.
T'as Hamilton, Lincoln...
Ah ouais, j'ai un peu... peut-être j'aurais dû vous en montrer un peu moins, mais... Ouais.
L'Union, il y a les financiers aussi là-dedans.
Ouais, qui font partie des deux partis.
C'est ça.
Right.
Jackson, du côté des démocrates, mais c'est un traître en même temps. Mais par contre, ils sont du côté de la Révolution française.
Mais c'est quoi la politique derrière? C'est quoi l'intention? C'est quoi les genres de mesures appliquées?
Peut-être de décentraliser comme une union, mais décentraliser.
Ouais, dans un sens. Mais c'est quoi qui caractérise le système américain? C'est quoi les politiques, en tout cas, que nous on appelle le système américain, qui était connu tout le long du 19e siècle comme étant le système américain?
Le protectionnisme?
Ouais, des tarifs, du protectionnisme. Ouais, ça c'en est une. Ça, c'est une des mesures qui était appliquée.
C'est éloigné des financiers, de la dominance des financiers.
Ouais, Ouais, il y a un outil qui a été bâti justement par Hamilton pour faire ça. Ça s'appelle une banque nationale. Ouais, à l'aide d'une banque nationale, à l'aide d'une institution qui serait sous le gouvernement. Ce serait pas dans les mains simplement d'intérêts privés. Puis, tu as mentionné le crédit. Donc ça, c'était, dans le fond, le fer de lance, vraiment, du système américain. Puis c'est toujours comme ça aujourd'hui qu'on le connaît, ou qu'on devrait le décrire. Puis c'est là où on arrive avec des paradoxes, parce que normalement, ben aujourd'hui, dans la pensée populaire, les Américains, les Britanniques, c'est pas toute la même affaire. Hein? Si on a affaire avec un système qui est corrompu, ça a toujours été comme ça, blablabla, on connaît la chanson. Ouais. Mais c'est pas vrai. Et Lincoln, justement, le mentionnait. Je pense que c'est une citation qui est vraiment intéressante parce que je vous laisse la lire. Est-ce que tu peux la lire, Eric?
Oui. Le système américain n'est pas capitaliste. Labor is prior to an interdependent.
Independent. Independent.
Independent.
Mm-hmm.
Capital is only is only the fruit of labor and could never have exist. If labor had not first exist, labor is not superior of capital and deserves much higher consideration. Capital is right, which are as worthy as protection as any other right.
Ouais, donc ça c'est un message que Lincoln a fait devant le Congrès américain, sa première adresse au Congrès américain, où il dit ok, on a un problème parce que on est en faillite, puis en plus on est face à une guerre civile, on est face à la dissolution des États-Unis tels qu'ils ont été créés. Donc, face à ça, qu'est-ce qui va guider, dans le fond? Qu'est-ce qui va faire en sorte que, toujours avec cette idée-là qu'il faut avoir derrière l'esprit, de c'est quoi la qualité de Lincoln en tant que leader à l'époque pour sortir les États-Unis de la crise, de cette guerre-là, de gagner la guerre, de préserver l'Union et de faire en sorte que on soit lancé sur une trajectoire de développement. Donc comment, dans le fond, c'est comment est-ce qu'on organise? Puis ça, c'est vraiment le travail que Lincoln a fait pendant toute sa présidence. C'est-à-dire, ok, comment j'organise la population? Là, on est vraiment dans une crise que certains ont appelé, qualifié d'insurmontable. Ou dans le fond, même dans la faction qui voulait l'abolition, les abolitionnistes, ceux qui voulaient l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, n'étaient pas nécessairement du côté de Lincoln. Et ça, c'est peut-être pas mentionné assez souvent. Mais que... Et que de l'autre côté, dans le fond aussi, il y en avait d'autres qui étaient du côté de Lincoln sur différents points. Donc, c'était pas noir ou blanc, encore. On voyait vraiment que il fallait organiser sur un principe qui était plus élevé. Sur un principe qui était universel. Puis, il fallait se battre là-dessus et organiser la population à se battre sur ces principes-là. Au lieu de juste aller pour, ok, est-ce que j'ai le droit d'avoir ma propriété, mon esclave, si, ça? Est-ce que, pourquoi, chez les abolitionnistes, pourquoi pas simplement séparer les États qui sont esclavagistes des États qui ne sont pas, des États qui sont libres, et dire, ok, eux, ils vont avoir cette partie-là, nous, on va être de ce côté-là, puis tout le monde va être content. Hein? ils vont conserver leurs droits ou peu importe ce qu'ils pensent être leurs droits. Puis nous, ben, on n'aura pas d'esclaves. Puis on va se sentir mieux, moralement. On va se sentir, hein, qu'on a fait une bonne action. Mais Lincoln dit non, 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 non. C'est pas comme ça que ça marche, là. C'est, hein, on s'est unis pour le meilleur et pour le pire. Le divorce, c'est pas une option. Disons-le comme ça. Et puis, donc lui, il va organiser au niveau le plus élevé pour faire en sorte que la population se rappelle c'était quoi l'intention au départ. Pourquoi ils se sont unis? Pourquoi 13 colonies ont fait face à l'Empire britannique et ont gagné leur guerre d'indépendance? C'est sur quel principe? Pas juste pour éviter de payer des taxes. Qui se battrait pour ça? Non, je ne répondais pas. Mais c'était pas ça. C'était pas ça l'intention derrière. Et je voulais lire. J'ai ici un message qui avait été lu non, c'était en fait ça, c'était un discours de Lincoln qui avait prononcé en 1858, alors que ça c'était la campagne pour l'élection de Lincoln à la présidence américaine. Est-ce que Rémi, tu pourrais la lire? Ouais. Okay. Je vais aller ici dans le micro. Avant que tu la lises, juste pour vraiment comprendre l'intention derrière ce qui a motivé Lincoln dans toute sa bataille afin en sorte que l'Union gagne et que justement les droits pour lesquels le peuple américain s'était battu pendant la guerre d'indépendance soient conservés.
The Declaration of Independence was formed by the representatives of American liberty from 13 states of the Confederacy, 12 of which were slaveholding communities. We need not discuss the way or the reason of their becoming slaveholding communities. It is sufficient for our purpose that all of them greatly deplored the evil that they placed a provision in the Constitution which they supposed would gradually remove the disease by cutting off its source. This was the abolition of the slave trade. So general was conviction, the public determination to abolish the African slave trade, that the provision which I have referred to as being placed in the Constitution declared that it should not be abolished prior to the year 1808. A constitutional provision was necessary to prevent the people, through Congress, from putting a stop to the traffic immediately at the close of the war. Now, if slavery had been a good thing, would the fathers of the Republic have taken a step calculated to diminish its beneficent influence among themselves and snatch the boon wholly from their prosperity? These communities, by the representatives in old Independence Hall, said to the whole world of men, "We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness." This was their majestic interpretation of the economy of the universe. This was their lofty and wise and noble understanding of the justice of the Creator to His creatures. Yes, gentlemen, to all His creatures, to the whole great family of man. In their enlightened belief, nothing stamped with the divine image and likeness was sent into the world to be trodden on and degraded and imbruted by its fellows. They grasped not only the whole race of man then living, but reached forward and seized upon the farthest posterity. They erected a beacon to guide their children and their children's children and the countless myriads who should inhabit the earth in other ages. Wise statesmen as they were, they knew the tendency of prosperity to breed tyrants, and so they established these great self-evident truths that when in the distant future some man, some faction, some interest should set up the doctrine that none but rich men or none but white men were entitled to life, liberty, and the pursuit of happiness, their posterity might look up again to the Declaration of Independence and take courage to renew the battle which their fathers began, so that truth and justice and mercy and all the humane and Christian virtues might not be extinguished from the land, so that no man would hereafter dare to limit and circumscribe the great principles on which the Temple of Liberty was being built. Now, my countrymen, if you have been taught doctrines conflicting with the great landmarks of the Declaration of Independence, if you have listened to suggestions which would take away from its grandeur and mutilate the fair symmetry of its proportions, if you have been inclined to believe that all men are not created equal in those inalienable rights enumerated by our Chart of Liberty, let me entreat you to come back. Return to the fountain whose waters spring close by the blood of the Revolution. Think nothing of me. Take no thought for the political fate of any man whomsoever, but come back to the truths that are in the Declaration of Independence. You may do anything with me you choose, if you will but heed these sacred principles. You may not only defeat me for the Senate, but you may take me and put me to death. While pretending no indifference to earthly honors, I do claim to be actuated in this contest by something higher than an anxiety for office. I charge you to drop every paltry and insignificant thought for any man's success. It is nothing. I am nothing. Judge Douglas is nothing. But do not destroy that immortal emblem of humanity, the Declaration of American Independence.
Judge Douglas.
It is a flag for humanity. The Declaration of Independence is a flag for humanity.
Ouais, c'est l'emblème immortel, comme il l'appelle. Ouais, exactement. Donc ça c'est en 1858. C'est 2 ans avant que Lincoln se fasse élire comme président américain. Bon, je pense que l'intention était claire. Ce serait très dur de dire qu'il était pour l'esclavage. Malgré qu'il y en a toujours qui essaient de dire, de faire ce point-là, mais non. Pas dans les faits. Donc là, on va rentrer un peu plus dans la chair, si on veut, de voir comment Lincoln a fait ça. Comment il était capable de rebâtir l'économie américaine, même face à une guerre civile, une guerre interne. Comment il s'en est sorti et de quoi il s'est inspiré pour faire ça. Donc ça, c'est... Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Larouche met l'accent à dire que c'est un système bancaire, un système constitutionnel américain de type hamiltonien qu'il faut instaurer, rétablir pour vraiment se sortir de cette crise. Donc, il y a Hamilton qui est ici. Et je vais vous lire une citation. Ça provient d'un de ses rapports. Donc, il a écrit 3 rapports. Et ça, c'est juste après. C'est à la fin du débat pour l'établissement de la Constitution américaine. 3 rapports pour, en fait, mettre un peu d'ordre dans la manière de penser. Parce que là, bon, après avoir eu la Constitution, c'était assez clair, ok, bon, il y a les principes de base sont établis. Maintenant, la vie, la liberté, la poursuite du bonheur, le bien-être général, le développement domestique, la tranquillité domestique. Tous ces principes-là qui sont mentionnés dans la Déclaration d'indépendance, dans la Constitution américaine, dans le préambule. OK, mais comment on fait ça? Comment on fait en sorte que ça arrive? Qu'on puisse vraiment développer un pays souverain? Qu'est-ce que ça prend? C'est là on a les principes, on a l'idée, OK. C'est dans cette direction-là qu'on s'en va. C'est ça qu'on veut. C'est pour ça qu'on s'unit ensemble. Comment on fait ça? Donc, une citation ici. Pat, est-ce que tu voudrais la lire?
Ouais,
ouais. OK. Peux-tu me lire juste la lire ici?
C'est long, lire?
Non, non, non.
Je le mets à l'hectare, là.
C'est correct. C'est pas très long. Tu vois, c'est le paragraphe ici.
OK.
Puis après ça, ce paragraphe-là.
Ok.
Prends une pause entre les deux, c'est comme deux idées différentes.
Ouais, ouais.
Ben, deux idées qui se rejoignent, mais. Ok.
Ouais. La faculté de la banque de prêter et de faire circuler une somme supérieure au montant de son actif en pièces métalliques génère, au service du commerce et de l'industrie, une augmentation nette du capital. Les achats et les créations d'entreprises peuvent en général être réalisés par une somme donnée en papier bancaire ou en crédit aussi efficacement qu'une somme égale d'argent et d'or. Ainsi, en contribuant à élargir la masse des entreprises industrielles et commerciales, les banques deviennent les nourrices de la richesse nationale.
OK. OK. Désolé, j'ai pas mentionné, mais c'est le deuxième rapport, ça. Le rapport sur la Banque nationale. Donc, pourquoi instituer, en fait, avoir une institution qui s'appelle Banque nationale sous la gouverne du Congrès américain pour, en fait, émettre les crédits publics qui étaient dans le premier rapport de Hamilton en 1790. Donc, ça, c'est le début, dans le fond. Peux-tu lire la deuxième citation?
Ouais.
Merci.
Qu'est-ce que la richesse? La richesse intrinsèque d'une nation ne se mesure pas par l'abondance du métal précieux qu'elle recèle, mais par la quantité et les productions de son travail et de son industrie. Il est certain que la stimulation de l'industrie à l'aide d'un système de crédit papier adapté et bien régulé est à même de compenser et au-delà la perte d'une partie de l'or et de l'argent d'une nation. Une nation qui n'a pas de mine sur son sol doit obtenir le métal précieux d'ailleurs, généralement en échange des produits de son travail et de son industrie. La quantité qu'elle possédera sera en principe déterminée par le solde favorable ou défavorable de sa balance commerciale, c'est-à-dire selon la proportion entre sa capacité à répondre à la demande étrangère et son besoin de marchandises étrangères, soit la différence entre le montant de ses importations et le montant de ses exportations. Ainsi, l'état de l'agriculture et des manufactures, la quantité et la qualité de la main-d'œuvre et de l'industrie doivent influencer et déterminer l'accroissement ou la réduction de stocks et d'argent.
D'accord. Merci. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose qui transparaît? Est-ce que c'est comme ça qu'on fait l'économie aujourd'hui? Non. OK. C'est pas de cette manière-là que le système bancaire aujourd'hui fonctionne. Mais ça, c'était des idées qui étaient totalement révolutionnaires à l'époque. Un paradoxe que moi je note, en fait, dans juste ce court extrait-là, c'est que il parle que c'est comme C'est comme une attaque sur le ce qu'on appelait le gold standard. De comment voir la création de la richesse. C'est quoi la richesse en fait d'une nation? Et comment le système à l'époque était dominé par le monétarisme britannique qui contrôlait genre vis-à-vis de ce qu'on appelait le gold standard, le développement et son développement et le développement des colonies. Puis là, une nation souveraine qui se bâtit et qui dit ok, c'est pas grave, on peut se développer même si on n'a pas d'or. Ça veut pas dire qu'on ne voudra pas en acquérir, mais Hamilton travaille toujours quand même d'une certaine manière avec le principe de l'or derrière, mais pas étant comme la création de la richesse. C'est pas parce qu'un pays en a ou en a pas qu'il a de la richesse. C'est pas ça. Donc ça, c'est à la base du système américain. Et c'est pour ça qu'il dit, ok, on peut créer une monnaie, retourner en fait au système qu'ils avaient pour développer les colonies, qui était indépendant du système monétaire britannique. Et dire, ok, on a de la monnaie pour échanger les biens qu'on produit. S'il n'y a pas de biens qui sont produits, ok, il n'y a rien à acheter. Il n'y a pas de valeur. Donc, ça ne dépend pas. Le développement de la nation ne dépend pas sur la quantité d'argent, la quantité d'or, la quantité de peu importe le métal précieux. Mais ça dépend de qu'est-ce qui va être fait pour créer la richesse réelle en termes du bien-être de la population. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez la citation de Lincoln, mais quand il adresse le Congrès, son premier discours au Congrès américain, je pense qu'il avait lu le rapport sur la Banque nationale avant. En tout cas, il s'en rappelait très bien. Donc, ça c'est pour montrer un peu comment Hamilton présentait lui-même organisé à l'époque pour avoir un système bancaire, un système économique qui serait totalement indépendant de l'Empire britannique, qui pourrait se maintenir de lui-même puis créer vraiment plus de richesses que juste amasser de l'or ou de l'argent. Alors ça, c'est intéressant parce que justement, Lincoln va s'en servir et il va d'une certaine manière, peut-être indirectement, faire clair que lui, c'est sa mouvance. C'est de là qu'il tient ses idées. Et c'est ça qu'il va promouvoir. Donc, une petite citation ici de Lincoln. Can you read it, Megan?
My politics are short and sweet, like an old woman's dance. I am in favor of a national bank. I am in favor of the internal improvement system and a high tariff.
Speaks for itself. Bon. Donc, il est assez clair. Ça, c'est en 1830. Là, si on retourne encore plus. Je vous avais ramené jusqu'en 1858, mais là, on est en 1830. Et ça, c'est à l'époque où Lincoln, justement, fait partie du parti Whig, qui a repris les idées d'Hamilton. Qui a dit, OK, nous, il faut qu'on développe les États-Unis, mais on ne peut pas le faire avec le libre-échange. On ne peut pas le faire avec le système impérial britannique. Ça ne se passera jamais. Donc, il faut qu'on aille des tarifs. Il faut qu'on protège l'industrie qui est naissante en Amérique. On se bâtit de rien. On ne peut pas taxer nos industries pour essayer de créer plus de revenus. Ça ne marchera pas. Oui?
Aspect comme internal improvements, je peux voir ça comme des investissements dans l'infrastructure.
Ouais.
Tout ça. Mais
ouais.
Les high tariffs, ça, c'est comment tu
fais ça? Ben, c'est-à-dire que si t'as pas d'industrie au départ, bon, si tu veux te bâtir, c'est comme dans le rapport sur les manufactures,
uh-huh.
OK? Hamilton dit, ben, est-ce que ça aurait été, hein, est-ce que, parce que là, c'est là que, juste parenthèse, la monnaie, le système monétaire, si l'économie est juste une question de l'argent, si on peut payer moins cher pour avoir la même chose, est-ce que ça s'équivaut? Est-ce que c'est meilleur, nécessairement? Puis Hamilton, dans son rapport sur les manufactures, il dit, OK, là, on vient juste d'avoir une guerre avec l'Empire britannique. On vient de gagner. Maintenant, si c'était la politique de Adam Smith qui avait dominé notre économie au moment de la guerre, on aurait sûrement voulu acheter la poudre à canon de nos ennemis au lieu de la créer, hein, de le faire ici, de battre, hein, de manufacturer les fusils, la poudre, les canons, le matériel nécessaire. Est-ce que ça, eux, déjà ils ont une industrie de guerre en Grande-Bretagne, est-ce que ça n'aurait pas fait plus de sens d'acheter les munitions de la Grande-Bretagne? Ça coûte moins cher. Elle dit non, c'est fou de penser comme ça. Puis c'est pour ça qu'il faut protéger les industries. C'est pour ça qu'il faut dire, OK, il y a des choses nécessaires pour la protection, pour le développement de la nation, qui doivent non seulement être amenées dans le pays, de l'extérieur, admettons, si elles existent déjà ailleurs, ou il faut se les bâtir nous-mêmes.
Ouais.
Ben ouais. Puis tu vas voir dans au cours, ben juste comme ça sur le, vu qu'on en parle, mais l'idée des tarifs dans la période 1861 à 1865, il va y avoir un accroissement dans les tarifs. Il va y avoir le Morrill Act qui va être passé en 61 pour hausser les tarifs, pour faire sûr que vraiment il va y avoir du développement intérieur, que les industries vont se développer et fournir le nécessaire pour gagner la guerre. Parce que
les tarifs plus hauts financent aussi l'industrie interne.
Ouais. Ouais, exactement. C'est ça. Puis entre 1861 et 65, les tarifs vont passer de 18,8% à, si je me trompe pas, c'est 47%. Là, ça, j'ai juste des chiffres. Je sais pas si c'était standard unifié, mais je pense que oui. Je pense que c'était... Faudrait que je m'informe plus là-dessus. Mais... je sais que en fait, dans le domaine sûrement industriel, les tarifs montent d'un taux de 18,8 à 47%. Donc, c'est deux fois et demi, je pense. C'est dans ouais, c'est plus que deux fois. Deux fois et demi, quasiment, je pense. Donc... donc, il y tient en 1830, mais aussi en 1860. Et ben, face à ça, ben, comment, ok, mais comment aussi, quelles sont les provisions pour faire ça, dans un sens, dans la déclaration d'indépendance? Il y a ces principes-là. Je vais passer plutôt à la Constitution pour voir. Là, on en a déjà discuté, mais peut-être juste pour l'avoir sur le document. Et donc, des tarifs élevés du développement interne et une banque nationale. Trois aspects vraiment fondamentaux. La politique de Lincoln et de Hamilton. avant lui.
Est-ce qu'on peut traduire ça comme dans un sens actuel à la taxation?
Le tarif, d'une certaine manière, ouais. Si tu veux, comme une taxe, mais sur les biens extérieurs. Ouais.
Sur les biens qui, okay.
Qui entrent, ouais. Mais qui font en sorte que justement, toi, tu peux produire les biens, puis même quand tu as bâti ton industrie, tu peux peut-être baisser les tarifs, mais là, il faut que créer, si tu veux, une certaine compétition. Mais, ouais, des taxes sur les produits qui entrent. Maintenant, comment le faire? Face à la crise où Lincoln se trouvait, c'est-à-dire que la Banque nationale, qui avait déjà existé, justement, qui avait été bâtie par Hamilton, a été détruite dans les années 1830 par Andrew Jackson. Donc ça, cette capacité-là d'émettre le crédit productif, le crédit public, pour le développement des industries, des infrastructures, de la nation en général, ça a été détruit. Et si on va regarder les chiffres, assez phénoménal, parce que, je veux dire, en l'espace justement de même pas 30 ans, ce que ça avait fait de détruire la Banque nationale, c'est que c'était plutôt des banques privées maintenant qui émettaient leur propre crédit, qui émettaient leur papier monnaie. Et toujours lié avec l'or et l'argent. On va y revenir. Mais entre 1836 et Lincoln, quand il entre à la présidence américaine, il va y avoir 1496 banques, d'accord, qui émettent leur papier monnaie, qui émettent leur propre crédit d'une certaine manière, leur propre monnaie. Donc, c'est des monnaies différentes pour toutes ces banques-là. Peut-être qu'il y a des alliances, mais en tout cas, ça, 1496 banques. Et dans les notes de crédit qu'ils vont émettre, il va y avoir 7000 de ces notes-là qui vont être légales, mais il va aussi y avoir beaucoup de contrefaçons. Donc, il va y avoir 7000 notes légales, mais aussi 5500 notes qui sont illégales. Donc, il y a quasiment autant d'argent en circulation légal qu'illégal. Contrefaites les notes. Donc c'est pas un système réglementé, c'est pas un système qui fonctionne. Et c'est là où les États-Unis se retrouvent en crise et Lincoln doit dire ok, comment on rétablit un système de crédit, comment on va mettre en place. On en parlait, on avait nos adversaires qui faisaient tout le contraire alors qu'ils étaient à la présidence américaine et qui ont détruit l'économie américaine. Maintenant qu'on est au pouvoir, comment on le fait? Comment on s'en sort? Et là, il va demander conseil à un de ses amis du Midwest, le colonel Dick Taylor. Il va lui demander, ok, il faut que tu trouves les provisions légales, il faut qu'on sache comment faire ça, comment s'en sortir, comment créer le crédit. Et Dick Taylor va répondre, Mathieu.
Just get Congress to pass a bill authorizing the printing of full legal tender treasury notes. And pay your soldiers and go ahead and win your war with them also. Okay? They will have the full sanction of the government and be just as good as any money, as Congress is given that express right by the Constitution.
Quoi? C'est-à-dire que tu vas juste imprimer du papier?
Ça dépendait de l'outcome de la guerre. Finalement.
Je vais pas trop vite là. ça va pas créer de l'inflation? Tu veux juste imprimer de l'argent de même? Ça, c'est ce qu'on nous. c'est ce qu'on nous dit toujours aujourd'hui quand on présente l'idée de ah ben on va avoir une banque nationale, on va mettre le système en faillite, on va avoir du crédit public, hein?
Mais juste de comprendre quand on parle d'inflation, pourquoi on vit dans un système hyper inflationnaire, parce qu'il y a beaucoup plus de monetary aggregates qui sont imprimés versus parenthèses.
C'est bon. Je suis content que ça t'aille appeler. Mais c'est ça.
Non, mais comme vous le dites,
dans la triple courbe. Donc c'est ça, c'est le paradoxe en fait pour tous les monétaristes dans la salle ici ou qui vont regarder la classe. C'est le paradoxe, c'est que en fait d'imprimer l'argent va pas créer l'inflation, pas nécessairement créer l'inflation. Et ça c'est important parce que c'est ça qui a permis de bâtir justement une nation comme les États-Unis, de la développer industriellement. Et à l'époque, Lincoln va s'en servir pour gagner la guerre. Pour dire, OK, on va pas... rappelez-vous toujours qu'est-ce qui se passe en ce moment avec le débat sur la santé et tout ça. C'est pas... On va pas couper dans les services. On va pas fermer les hôpitaux. On va pas en réduire les dépenses budgétaires. En fait, on va les accroître. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'on va pouvoir s'en sortir. Donc, oui, on va se créer une dette, mais cette dette-là va être beaucoup plus précieuse que l'or qu'on pourrait avoir dans nos coffres. Parce qu'on sait quoi faire avec. Parce qu'on a, on a une direction pour développer l'être humain. Ça, c'est...
Parce qu'on sait quoi faire.
Ouais, c'est ça. Donc...
Là, je voudrais bien comprendre, parce que l'habitude de...
Ouais.
Quand on exerce la planche à billets, donc, quand on imprime, ce qu'on nous a appris à l'école, que ça crée l'inflation, parce qu'il n'y a plus de billets en circulation.
Ouais.
Mais s'il y a plus de billets en circulation et qu'on sait quoi faire avec, ça devient différent, c'est ça?
Ouais, parce qu'à ce moment-là, ça devient... c'est pas passif, si on veut. C'est pas de l'argent qui est mort ou qui perd de sa valeur parce que, justement, il y a une différence de ratio entre... comme la masse de l'or ou de l'argent qu'on a en coffre. Ou que les gens vont... C'est qu'il y a quelque chose de produit. Si on est dans un système qui est entropique, là ça marche pas.
Mon ami dit que quand on sait quoi faire avec, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pense pour les hôpitaux, pour les infrastructures.
Ben c'est que, ça va être dirigé au développement humain. Plutôt que simplement de jouer dans le système monétaire, à essayer de faire de l'argent avec de l'argent, ben. L'intention, c'est d'utiliser, c'est de créer un moyen pour qu'on puisse échanger les biens produits. Créer un moyen pour qu'on puisse investir dans le développement des infrastructures ou d'autres grands projets pour faire en sorte d'améliorer la condition de vie de chaque individu de la société. Et c'est de là que vient la vraie valeur économique, la vraie valeur de l'argent. Aussi le standard de vie de chaque individu.
Donc c'est comme si quand il y a beaucoup de papiers produits avec des promesses de développement internes et autres, c'est pas nécessairement une inflation, tandis que l'inverse, c'est presque un mensonge de développement.
Aujourd'hui, oui.
Papier produit.
Oui, exact. C'est exactement ça, c'est la situation actuelle maintenant, où on imprime, même de manière plutôt virtuelle aujourd'hui. que sur papier. Là, on imprime, sauf que tout ça va aller, les bail-outs, les renflouements bancaires vont effacer les dettes des banques, des compagnies d'assurance, à renflouer leur coffre. Donc, il n'y a pas de pont, il n'y a pas de chemin de fer, il n'y a rien qui est bâti. Il n'y a même pas de l'argent qui est prêté pour la consommation des particuliers.
De nos jours?
De nos jours, en ce moment, ce qui se passe. Ouais. Et donc ça, c'était bien compris par Lincoln. Et ben, les conseils de Dick Taylor, en fait, à la lecture de la Constitution américaine, on peut voir d'où ça vient. Comment ça se fait qu'ils ont le droit, justement, de faire ça? Est-ce que quelqu'un peut lire? C'est l'article 1, section 8 de la Constitution américaine.
Je peux lire? Ouais, vas-y. Constitution des États-Unis d'Amérique, article 1, section 8. Le Congrès aura le pouvoir de lever et de percevoir des taxes, droits, impôts et excises, de payer les dettes et pourvoir à la défense commune et à la prospérité générale des États-Unis. Mais les dits droits, impôts et excises seront uniformes dans toute l'étendue des États-Unis. De faire des emprunts sur le crédit des États-Unis, d'établir une règle uniforme de naturalisation et des lois uniformes au sujet des faillites applicables dans toute l'étendue des États-Unis, de battre monnaie, de déterminer la valeur et celle de la monnaie étrangère et de fixer l'étalon des poids et mesures.
Non, c'est tout. Ça, c'est juste le début. C'est juste un extrait. Quelque chose de choquant. C'est correct. Pas de problème.
C'est qu'il dit que tout serait uniforme. Seront uniformes dans toute l'étendue des États-Unis.
Oui, ça, c'est une des choses qui est mentionnée, oui. Que les taxes, que tu vas pas payer plus de taxes pour le lait qui est produit ou pour acheter ta pinte de lait, admettons, si tu t'en vas en Géorgie ou si tu es au Vermont, il ne devrait pas avoir de différence, il ne devrait pas avoir de taxes qui vont être accumulées si tu te déplaces entre les États. Ça va être partout la même affaire. Ça, c'est un des points. Peut-être pas aussi important que ce que je pensais amener, mais
ouais.
Dans l'idée de la monnaie.
Il me semble qu'à part le point 1,
ouais.
Les autres points, c'est le genre d'affaires qui t'attribuerait au plan de la finance.
Normalement, ouais, c'est
pas
ça.
Les emprunts, histoire de faillite, puis créer la monnaie, puis c'est tellement des poids de mesure.
Ouais. Donc pourquoi est-ce que ça c'est le... En fait, il n'y a que le Congrès américain qui a le pouvoir de faire ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Je veux dire, les débats qu'on a, même avec la population dans la rue, ils disent « Ok, mais c'est la réserve fédérale, c'est indépendant, le gouvernement n'a rien à faire là-dedans, puis c'est ça qui est ça. » Fait que, t'as des belles idées, là, mais elles ne marchent pas. Comment ça? C'est là. C'est dans la Constitution.
C'est le gouvernement qui doit régir ça. Parce que c'est pas la réserve fédérale qui va battre la monnaie pour. C'est l'inverse. C'est le gouvernement qui va dicter dicter ce processus-là. Parce que sinon, c'est pas le gouvernement souverain.
Ouais.
Ouais, comme. L'idée qui se dit juste à le commencement que le rôle de la gouvernement en présente ça, de payer les dettes, c'est pour le pouvoir de la défense commune et la prospérité générale. Et la défense commune, c'est une question morale. Et quand tu regardes les gens qui suivent des idéologues de Adam Smith, le rôle du gouvernement, c'est de laisser faire l'économie et de politique. Mais c'est incompatible. Et quand tu mets dans le contexte comme ça, tu réalises que le rôle de le gouvernement, c'est une question morale. Puis, si tu mets dans la question de la rôle, comment ça va diriger l'économie,
ouais.
Pour quelle raison? Pour juste des profits ou quoi? Pourquoi?
Ouais, est-ce que le pays, c'est juste une compagnie? Run the country like a business. Ouais. Est-ce que c'est ça le fondement? Est-ce que c'est pour ça qu'on est ensemble, qu'on est unis, qu'on a un pays? Est-ce que c'est juste pour être capable de faire du profit, là? Puis qu'à tour de rôle, bon, il y en a qui se fassent élire, puis bon, ils se remplissent les poches à ce moment-là, et si on les sort, on en met d'autres. Est-ce que c'est vraiment ça l'idée derrière le gouvernement établi de manière constitutionnelle, ou est-ce que, justement, comment la prospérité, l'idée de la prospérité pour cette génération-ci et les générations à venir, comment faire en sorte que ça puisse se refléter? C'est un bon paradoxe, parce que, ouais, aujourd'hui, la population, en général, dans plutôt tous les milieux, pense que ces droits-là, c'est plutôt des droits qui sont inhérents au secteur privé, au secteur financier. Mais les fondateurs, les pères fondateurs américains avaient compris que si on veut vraiment faire en sorte que, puis pour revenir à la Déclaration d'indépendance, pour faire en sorte que chaque humain ait l'égalité, que chaque humain parte sur le même pied, ben, il faut faire en sorte que les moyens soient disponibles pour bâtir la société, pour justement les amener au même niveau. Puis même, pas juste les amener au même niveau, mais toujours hausser le niveau, le standard de vie de chaque individu dans l'avenir. Faire en sorte qu'il y ait un vrai progrès, un vrai développement. Donc, mais le droit de battre monnaie, là, c'est dans la Constitution. Donc, tout ce que Lincoln a fait est légal. Et les conseils de son du colonel Dick Taylor sont légaux. C'était la chose constitutionnelle à faire. Donc Lincoln décide, OK, on va faire un système national de banque. On va avoir des banques à charte, des banques privées, qui va être réglementée selon ce que la Constitution dit. Si tu veux. Deuxièmement, on va financer la guerre en ayant ce qu'on appelle les 520. C'est des bons du Trésor américain qui vont être vendus pour une durée pour 20 ans à 5% d'intérêt. Donc, des bons du Trésor. On va établir les tarifs douaniers. On va hausser les tarifs pour la protection des industries. Puis, comme j'ai mentionné auparavant, ça va passer de 18,8% à 47%. Ça va plus que doubler pendant le terme de Lincoln. Et on va bâtir des chemins de fer. On va vraiment étendre le système de transport américain partout. Maintenant, face à ça, face à cette politique-là du crédit public, il n'y a pas juste des adhérents, il y a aussi l'opposition. Et l'opposition va venir des mêmes cercles financiers contre qui Hamilton et après ça Jefferson ont dû à se battre, de Boston et de New York, de Wall Street. C'est intéressant de voir que des gens comme les Astor et Gallatin, sous Jefferson, le trésorier était Albert Gallatin, mais à l'époque de Lincoln, c'est son fils qui a repris la business à ce moment-là. Donc James Gallatin, qui est à New York, et eux, ils vont dire avant que Lincoln mette en place ses ces méthodes-là pour le crédit, la banque, ben, pas une banque nationale exactement, mais pour le crédit public, il va aller les voir en premier, il va voir, OK, que pour financer la guerre, c'est quoi, est-ce qu'on peut avoir de l'argent pour ça, est-ce qu'on peut, comment on peut se financer? Et eux, ils vont lui donner un, ils vont dire, OK, on a un bon deal. On va te vendre, on va émettre des bons du trésor, mais il faut que ça soit, tu sais, il faut qu'il y ait quand même pas mal d'intérêt parce qu'on veut que ça se vende en Europe. Fait qu'il va falloir hausser les intérêts, tu sais, avoir des intérêts peut-être de 10%. Pas sur 20 ans, là, peut-être 5 ans dans ce coin-là. Donc là, c'est, il va falloir faire du 5%, du 10% en beaucoup moins de temps, là. Aussi, ben, OK, là, ça va vouloir dire qu'il va y avoir de l'espèce qui va provenir, hein, de la monnaie, or ou argent, qui va provenir de l'Europe. Là, ils disent, en plus de ça, ben, il faudrait que tu déposes l'or et l'argent du gouvernement dans nos coffres. C'est juste une garantie, juste pour faire sûr que...
Je répète ça.
Ouais, c'est tout un truc de... Le premier, c'était des bons à haut taux d'intérêt sur une durée courte pour vendre sur les marchés européens, pour faire en sorte qu'il y ait de l'argent qui circule de l'Europe vers les États-Unis pour financer la guerre, en tout cas. Deuxième, c'était de dire, OK, maintenant, l'or du gouvernement, juste pour être sûr, tu sais, que tu vas nous repayer, il faudrait qu'on l'entrepose dans nos coffres, dans les coffres des banques privées. À l'époque, c'est... Ils travaillent à la Associated Banks of New York. Et ça, c'est le centre, si tu veux, des Gallatin, des John Jacob Astor. Et troisième, il va falloir que tu imposes des taxes aux industries pour être capable de financer. Il va falloir que tu taxes chaque industrie. Un peu comme le carbon trade aujourd'hui, ou le carbon cap. On va mettre une taxe, ouais, le cap and trade. On va mettre une taxe sur les industries pour se financer. Fait que là, Lincoln sort de là et il dit, vous êtes malade. Ça marchera jamais, cette affaire-là. Il dit, OK. Puis c'est à ce moment-là, là, j'ai un peu fait l'histoire à l'envers, mais c'est à ce moment-là qu'il dit au colonel Taylor, il dit, OK, il faut, ces gens-là, ils veulent nous ruiner. Puis, ça marchera pas. Leur politique est folle. Fait qu'on doit... Il faut se trouver un autre moyen pour être capable de gagner la guerre puis sauver les États-Unis. Donc, il va y avoir, à ce moment-là, il va y avoir différents... il va y avoir des lois qui vont être passées au Congrès, au Sénat, initiées par Lincoln. Ça va être un peu des lois compromis. C'est-à-dire qu'il va y avoir le National Currency Act qui fait en sorte que, ben là, on va avoir une monnaie. On va avoir les greenbacks. Ce que ça va faire, c'est que là, c'est plus juste les 1694 banques qui émettent leurs notes comme ils veulent. Mais là, on va avoir une monnaie qui va être... Ça va être le crédit pour financer la guerre. Ça va être une monnaie unique pour les États-Unis. Wow. Donc ça n'avait pas existé depuis que la Banque nationale avait été détruite. Puis même à ce moment-là, je pense qu'il n'y avait pas nécessairement une monnaie unique. Donc, il émet les greenbacks, mais comme je vous dis, c'est un peu c'est un compromis aussi. Il va être capable d'émettre les greenbacks. Mais les Astor, les Gallatin vont être capables de contrôler une certaine faction dans le Congrès pour faire en sorte que, OK, t'as les greenbacks, mais les intérêts des greenbacks ou les intérêts des bons, hein, on peut acheter des bons du trésor avec les greenbacks, c'est la monnaie d'échange légale. Donc on peut, ouais, les greenbacks. parce que le derrière est vert. Comme tu as compris. Mais on peut acheter les bons du trésor avec les greenbacks, sauf que les intérêts sur ces bons-là pourront être repayés en greenback et en or ou argent. Donc là, c'est là où ils mettent, c'est le compromis. C'est de dire, OK, les greenbacks, ça, c'est la, ça va être la monnaie légale, mais il va falloir qu'il y ait une relation toujours gardée avec l'or et l'argent. Ce qui n'est pas nécessairement ce qui est pas ce que Lincoln voulait. Mais il doit compromettre puis laisser cet amendement-là dans la loi pour que ça passe. Maintenant, ce que ça veut dire, c'est que il va y avoir les greenbacks qui vont être émis, mais il va y avoir la spéculation aussi qui va être faite sur la valeur des greenbacks, qui va déstabiliser d'une certaine manière l'efficacité, si on veut, des greenbacks. Parce que là, c'est plus juste pour le développement interne, mais c'est que derrière ça, derrière l'idée des bons, l'idée de dans le fond, métalliser, dans un sens, la monnaie, en faire en sorte que la spéculation, c'est ça, c'est l'argent pour l'argent. Donc, c'est pas juste pour le but du développement intérieur. Donc ça fausse un peu la valeur du greenback. Mais bon, on pourra y revenir. Donc il va y avoir la National Currency Act, il va y avoir la National Banking Act qui vont être passés, qui vont faire en sorte de justement réglementer le système bancaire américain. Faire en sorte que les banques vont vraiment s'en tenir au greenback, puis pas juste essayer de recréer leur propre monnaie. Donc, ouais, un instant. Maintenant, face à ça, ah oui, juste une citation pour juste mettre en contexte, à l'époque de quand Lincoln a passé ces lois-là, une citation que je voulais faire lire. Est-ce que tu peux la lire, Alba?
The government should create, issue, and circulate all the currency and the credit needed to satisfy the spending power of the government and the buying power of the consumers. The privilege of creating and issuing money is not only the supreme prerogative of government, but it is the government's greatest creative opportunity. By the adoption of this principle, the long-felt want for a uniform medium will be satisfied. The taxpayers will be saved immense sums of interest. The financing of all public enterprises and the conduct of the treasury will become matters of practical administration. Money will cease to be master and become the servant of humanity.
Mm-hmm.
J'ai dit, taxpayers will be saved immense sums of interest.
Ouais.
Parce qu'avant, c'était la monnaie privée.
Ouais, c'est ça exactement. Donc le gouvernement, comme aujourd'hui avec la Réserve fédérale, le gouvernement emprunte l'argent en fait. Et la création d'argent faite par la Réserve fédérale, mais le gouvernement doit payer de l'intérêt sur l'argent qui est émis pour le gouvernement. Donc la population américaine paye toujours de l'intérêt pour en fait avoir de l'argent qui est imprimé. Ce qui est un non-sens. Mais donc, Lincoln, lui, il l'avait compris. Et je pense que ça fait juste renforcer le point.
Je trouve ça intéressant comment il dit que c'est la prérogative suprême du gouvernement, comme si
ouais.
C'est vraiment ce principe qui s'étend au-delà des autres. Mais j'aime ça aussi comment ça finit parce que
mm-hmm.
tu vois, ça inverse le rôle, le
serfdom là, de
ouais.
l'homme versus. Mais ça me fait aussi penser à la, la citation You cannot serve two masters,
ouais.
God and Mammon. Et en même temps, ça, ça revient à ça, c'est que c'est finalement c'est pour
ouais, c'est
libérer
ça.
Des chaînes de l'argent, c'est presque investir quelque chose de spirituel.
Ben, c'est parce qu'à ce moment-là, justement, tu sais, ça veut dire que le gouvernement va vraiment être dévoué à l'intérêt de la population. Parce que là, tu as le pouvoir de dire, OK, voici, on va émettre un montant X de crédit public pour faire en sorte, pour faire sûr que ce qui est nécessaire à la vie, au développement de la société, va être, hein, il va être, ça va être canalisé dans un sens. On va savoir où mettre l'argent. Et que ça, c'est pour ça qu'on a des gouvernements élus, pas juste un monarque. Là, c'est, mais c'est intéressant parce que Jean-Louis il dit en plus, c'est ça qui va amener. Comment il le dit? Il le dit, c'est une opportunité. C'est la plus grande opportunité créatrice pour le bien-être général. C'est...
Le système de crédit.
Ouais, d'avoir, d'avoir un système national de crédit public.
Comme s'il finissait aussi en disant que money will cease to be the root of all evil, puis on va le, en la canalisant.
Exact. C'est ça, c'est que l'argent, c'est, tu sais, puis il y en a beaucoup qui reviennent avec ça à la table, ouais, on se base sur l'argent, le capitalisme, c'est sale. Ouais, ok, tu sais, ok, il y a un problème à juste essayer de faire de l'argent avec l'argent, ça c'est sûr. Maintenant, si on détruit l'argent, ok, on retourne au troc. Je veux dire, on l'a essayé, là. C'est... Il y a peut-être, à ce moment-là, peut-être 5 millions d'êtres humains sur la planète. Ça marchait jusqu'à un certain point dans l'Antiquité. Mais même en retournant en arrière, on voit qu'il y a toujours eu des systèmes de monnaie qui ont été développés. Mais pas pour que la population soit asservie à ce système-là. Pour faire en sorte que genre, les biens puissent circuler d'une personne à une autre. Donc, de réglementer un système de monnaie qui soit au service de l'être humain et pas l'inverse. Ça va vraiment créer la richesse. Donc, Lincoln avait vraiment bien compris ce dilemme-là qui était entretenu par les milieux financiers à l'époque comme aujourd'hui. Si t'as pas d'argent, tu peux rien faire. Alors ça revient souvent. Mais si t'as pas de créativité, là, tu peux rien faire. Ça, c'est vrai. Donc, face à ça, là, on a montré... j'ai essayé de montrer le plus possible comment Lincoln pensait, comment lui... Qu'est-ce qu'il guidait, en fait, à faire ce qu'il a fait pour gagner la guerre et établir un système qui soit... vraiment américain. Là, on va regarder un petit peu du côté britannique, comment eux ont réagi à ça. Alors ça, c'est... Vous le connaissez bien?
Non,
vous le connaissez? C'est John Bull. C'est Johnny Bull.
Johnny Bull?
Oui, John Bull. C'est le genre de Uncle Sam, mais britannique.
Okay.
Fait que c'est un gros banquier qui a une tête de bœuf. Mais ça, bon, c'est une caricature qui a été faite à l'époque pendant la guerre civile américaine de John Bull qui a justement le livre Sterling dans l'œil. Juste pour montrer c'est quoi sa vision. Et d'un côté, bon, t'as les le Seamus, je pense que ici, je sais pas comment prononcer le serment, mais Ça, lui, c'était... ce que j'ai vu, c'était un pirate. C'est vraiment les... D'un côté, les Britanniques finançaient genre les confédérés. Ils finançaient leur armement. Ils finançaient leur, dans le fond, leur flotte navale et autres. Puis pour détruire la flotte de l'Union. Puis bon, à côté, vous pouvez voir leur sentiment face aux Yankees. Mais c'est ça. Ça, c'était le soi-disant principe de neutralité de la Grande-Bretagne, de l'Empire britannique pendant la guerre, qui est bien représenté, je pense, ici. Fait qu'il dit ça. Ah oui, John Bull, la citation en dessous, ce qui fait dire à John Bull, c'est « A few more pirates afloat, and I'll get all the carrying trade back into my hands. »
All the quoi?
A few more pirates afloat. Seamus est un pirate. And I'll get all the carrying trade back into my hands.
C'est un pirate
britannique. Britannique. Bon, en tout cas, financé par les Britanniques. Pour mieux comprendre cette citation-là, on peut lire Lord Robert Cecil. Cecil, ouais. Un discours qu'il a fait à la Maison des Lords, la House of Lords. En Grande-Bretagne le 7 mars 1862. Est-ce que qui veut se risquer? Parler comme un Britannique? Ok, Mathieu.
We are all rivals. Rivals politically, rivals commercially. We aspire to the same position. We both aspire to the government of the seas. We are both manufacturing people, and in every port, as well as in every court, we are rival to each other. With respect to the southern seas, states, the case is entirely reversed. The population are an agricultural people. They furnish the raw material of our industry, and they consume the products which we manufacture from it. With them, therefore, every interest must lead us to cultivate friendly relations. And we have seen that when the American Civil War began, that at once recurred to England as their natural ally.
They at once recurred
to England as their natural ally.
Yeah, there's a Y that got... That I forgot that.
Yes.
Sorry.
Dernière phrase, c'est que. Avec la guerre civile, il y a une partie des États-Unis qui a comme rejoint, qui a rappelé l'Empire britannique.
Mm-hmm.
Une partie esclave.
Ouais, les confédérés. C'est ça. Les États du Sud ont beaucoup plus en commun avec l'Empire britannique. Oui. Parce que c'est des États esclavagistes, en effet. Comme l'Empire britannique. Mais... Ça montre vraiment la... Ça, c'est pas... C'est un des représentants de l'Empire britannique qui parle, tu sais, mais à tout... dans un sens, ce qu'ils ont comme genre de Sénat nommé, là. De l'aristocratie britannique qui était sûrement en majorité d'accord avec ce discours-là. Mais là, qui disait, OK, on a des alliés en Amérique, puis ils ont besoin de nous. Parce que les États-Unis, c'est nos concurrents. Ils veulent gagner le commerce, tout ça. Mais c'est intéressant de voir qu'ils disent le contrôle des mers. Parce qu'en fait, c'est vraiment pas ça. On va le voir un peu plus tard, mais c'était pas ça l'intention de Lincoln. Puis c'était pas ça l'intention des pères fondateurs. D'essayer de simplement gagner un commerce maritime contre l'Empire britannique. C'était oui de détruire l'Empire britannique, puis peut-être à ce moment-là, gagner le commerce dans un sens, mais pas juste maritime. Et donc, une petite blague ici. Comment Lincoln, lui, a répondu à ces Britanniques-là, qui en fait n'étaient pas prêts à rire du tout, mais qui voulaient conserver leur empire. Mais il dit, il montre comment un Américain, un Indien d'Amérique aurait pu avoir une rencontre avec John Bull. On se dit, the first and last discussion John Bull ever had with an American Indian. John Bull, do you know how big our empire is? No, replied the Indian. It is so great in extent that the sun never sets on the British Empire. Can you conceive of this? Yes, perfectly. That is, God can't trust you in the dark. Right? oui, c'est exactement ça. Donc, ouais, je vais laisser ça de bord. Mais Lincoln avait une toute autre idée. Ben, la dernière citation, juste pour clore sur la question des Britanniques. Mais ça, cette blague-là avait été faite. Ça, c'est à la fin, c'est quelques mois ou quelques semaines avant que Lincoln se fasse assassiner. Et donc, il y avait une très bonne idée de ce que les Britanniques, c'était quoi la perception des Britanniques ou de l'Empire face à la victoire de l'Union.
Ah, de cette citation-là?
Ben, de la blague même. Même la blague a été faite en 1865. Donc, il y avait une très bonne compréhension que l'Empire britannique y était pour gros dans la création de la guerre civile, mais un esprit libre est quand même capable d'en faire des bonnes blagues, de faire rire de ses opposants. Et donc, là je dis, pendant ce temps en Grande-Bretagne, les éditoriaux du London Times transmettent l'opinion de l'oligarchie financière face aux politiques de Lincoln. Et ça, c'est... Moi, j'ai pas encore vu l'original exactement de cette dépêche, mais c'est ce que j'ai trouvé jusqu'à là, c'est que ça provenait du Hazard Circular du London Times en 1865. Et ça dit, « If this mischievous financial policy, dont on a parlé, hein, le Greenback, Banque Nationale, Amélioration Intérieure. Donc, if this mischievous financial policy, which has its origin in North America, shall become indurated down to a fixture, then the government will furnish its own money without cost. It will pay off debts and be without debt. It will have all the money necessary to carry on its commerce. It will become prosperous without precedent in the history of the world. The brains and wealth of all countries will go to North America. That country must be destroyed, or it will destroy every monarchy on the globe.
Et c'est clair que ça met en opposition vraiment la monarchie avec
what?
La monarchie contre la République nord-américaine.
Ben c'est que en fait c'est mis dans ces mots-là, mais c'est pas la Grande-Bretagne ou l'Empire britannique, en fait, parce que c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. C'est que l'Empire britannique, ils ont pas eu de problème justement à détruire des monarchies en France ou en Allemagne ou en Autriche ou en Italie ou ailleurs, en Espagne. Ils ont jamais eu de problème à détruire, à créer des coups d'État, à changer les familles qui étaient au pouvoir. mais c'est que il comprenait aussi que un système républicain tel que comme Lincoln, comme Hamilton le concevait, ça c'était le pire ennemi d'un système impérial, d'un système monétaire. Et donc peut-être plus pour essayer de s'acquérir l'aide des autres monarchies, ils ont fait circuler ça, cette dépêche-là. Mais est-ce que c'était vraiment pour conserver ces monarchies? Ouais, pas vraiment. C'est juste pour essayer de se créer des alliés à ce moment-là. Donc, c'est vraiment c'est le système oligarchique, c'est le système impérial qu'ils essaient de maintenir en place. C'est
dans
pas de sauver
le fond,
les monarchies.
Dans le fond, la première proie de cette structure-là, c'est vraiment le peuple britannique aussi qui doit souffrir à travers qui sont un peu victimes des Windsor, la maison de Windsor, tout ça. Et c'est drôle parce que dernièrement, j'ai eu une conversation avec mon bon ami qui est écossais qui me dit que il y a beaucoup de gens là-bas qui sont convaincus que. Ben, que finalement, ils ont rien particulièrement contre les aristos, là, puis les royals, en tout cas.
Ouais.
Parce qu'ils sont convaincus qu'ils ont absolument aucun levier politique. Ils ont, qu'il y a une séparation entre la royauté et puis les blairistes, là, et tout ça.
Mm-hmm.
Donc, ils pensent qu'il y a cette conviction-là qu'il n'y a pas d'influence entre ces deux sphères-là, les rassure quant à OK, ben, les monarques, là, c'est OK, on s'en fout, c'est comme des reliques, des décorations.
Mm-hmm.
Mais finalement, ils ont encore maintenant
d'influence. Ça pourrait être le sujet d'une autre classe, mais ouais.
Ça,
c'est un bon point. C'est juste pense ici au Canada, comment les gens. Quand on leur dit, OK, c'est vrai qu'on est toujours sous une monarchie. La reine, c'est la reine du Canada aussi. Les gens disent, ouais, mais. Ah, tu sais, ça fait longtemps, puis. Elle fait rien, oui. Elle n'a pas de pouvoir, c'est juste un symbole. Elle est partout sur le papier monnaie, mais. C'est vrai qu'on fasse. Puis les gens ramènent, bon, peut-être quand la reine va mourir, peut-être là, ça va être un moment où on va pouvoir se débarrasser de sa tête sur le papier monnaie. Peut-être que la monarchie va disparaître au complet. Mais c'est parce que la monarchie aurait pu disparaître au complet, ça fait longtemps. On aurait pu faire en sorte que ça disparaisse, que ce concept-là de gouvernement par juste des envoyés divins, soi-disant divin, contrôle la masse, contrôle toute une population, tout un pays, puis même un empire. Ça, on aurait pu s'en débarrasser il y a longtemps.
À part l'existence monarchique de l'empire britannique, qu'est-ce que genre t'avais fait tantôt une mention de d'autres monarchies sur la France, l'Allemagne, l'Italie. Est-ce que cette monarchie de ces pays existe encore ou c'est juste l'Empire britannique qui est
Ah, ben si tu veux, la culture, d'une certaine manière, monarchique ou impériale, existe toujours en Europe. Ça, c'est clair. Mais pas nécessairement autant en Europe continentale, si tu veux, que dans. Sur l'île britannique. Mais le système qui contrôle l'Europe en ce moment, c'est un système impérial. Donc, oui, d'une manière peut-être pas vue directement par la population européenne, ils sont toujours sous le contrôle, en fait, d'une certaine caste. Fait que, ouais.
L'Italie, la France,
Ben, j'ai dit différents exemples à ce moment-là, mais on va dire l'Europe en général.
Je demandais ça parce que je me demandais s'il y a encore des conflits entre, mettons, le système impérial ou les monarchies d'Angleterre comparées à d'autres pays qui sont dans l'environnement, je ne sais pas.
Ouais, mais pas à ce niveau-là, pas au niveau de la monarchie. C'est-à-dire que même la monarchie, dans un sens, comme tu disais, c'est comme un outil, en fait, qui est conservé, mais qui a toujours une influence, mais qui est conservé dans ce sens-là, pour garder... mais c'est le système financier qui conserve ça. Ah, mais on fera une classe là-dessus une autre fois. Mais juste pour montrer, quand on revient à la situation, la situation que j'ai mentionné auparavant sur pourquoi John Bull n'était pas content que les Américains se développent, puis en fait plus la citation de Cecil sur le fait qu'il y a il était en bataille, les États-Unis étaient dans une guerre contre l'Empire britannique depuis le début. Ben, quand on regarde le développement intérieur des États-Unis, c'est là où on voit vraiment, on voit la vraie bataille. Parce que c'était ça la bataille à ce moment-là, même au moment de Lincoln. C'était une bataille pour faire en sorte que on puisse développer le continent. Donc eux, ils disaient, dans la citation, si vous vous rappelez, c'est la question de l'empire maritime qui revenait, le contrôle des mers. Mais c'est pas ça du tout. C'est vraiment d'établir des nations souveraines qui puissent développer l'intérieur de leur nation. Et ça, on le voit. Ça a commencé de manière c'était graduel, les chemins de fer. Si on peut fermer la lumière, vous allez peut-être voir mieux les... Il y a plus que des chemins de fer. C'est-à-dire, il y a les lignes et des routes au départ. Après ça, oui, des chemins de fer. Si on veut... des canaux, oui. Les lignes bleues, c'est les canaux. Donc, on voit différents... donc, de 1808 à 1851. Il y a du développement. OK. Mais... juste... ça, c'est 5 ans après la victoire de l'Union.
Ça, c'est les trains.
Ça, c'est les trains. Les lignes blanches, ouais, c'est les trains.
Ouais. Tu peux aller en arrière, une slide?
Ouais.
OK. Les blanches, quoi? 19
ans? Ouais, c'est des trains, ouais. Des trains, des canaux et quoi d'autre?
Des canaux, des trains, des routes. À cette époque-là.
À l'époque de la révolution, à l'époque de Lincoln.
Ouais. Ben, c'est une progression, là. Quand tu regardes les premières, ça, j'ai commencé, j'ai montré les images, comme on peut revenir, 1808 à 1851. Bon, on voit qu'il y a quand même pas mal de progrès qui est fait, surtout à différents moments où il y a des administrations comme celle de John Quincy Adams qui vont vraiment pousser pour le développement des chemins de fer, mais rien de comparable avec qu'est-ce que Lincoln et sa politique de développement intérieur, son crédit public, les greenbacks, vont vraiment faire pour développer les États-Unis. Puis seulement 5 ans après la victoire de l'Union, ils vont avoir développé tout ça. Ils vont avoir créé le lien continental entre la côte atlantique et la côte pacifique. Donc oui, dans un sens, ils ont battu les Britanniques sur leur emprise de la mer. Parce que là, ils sont plus obligés d'utiliser la mer pour faire le tour des États-Unis pour aller développer l'autre côté. Ils peuvent le faire à l'aide des chemins de fer. Ça, c'est une avancée. Ça n'avait jamais été fait dans l'histoire humaine. Première fois. Et les pays d'Europe vont s'en inspirer. Ils vont voir, 6 ans après, en 1876, pour la commémoration du centenaire à Philadelphie, les différents diplomates vont venir, chefs d'État de toutes les nations du monde, vont venir aux États-Unis, à Philadelphie, pour voir comment la nation, la jeune nation américaine, a été capable de se développer en l'espace d'un siècle. Ils vont s'être développés plus que les pays de l'Europe qui sont centenaires et plus d'un siècle. Mais qui, avec leur système impérial, n'ont pas eu leur système monétaire, aussi, je devrais dire, n'ont pas eu le même développement, n'ont pas été capables, ont été restreints dans leur développement.
Mais quand on parle de système, c'est quoi un système gouvernemental ou un système économique?
Les deux.
Ok, c'est ça, parce que là, tu mentionnes le système de crédit américain, c'est parce que c'est dans la constitution, non, constitution fédérale qu'ils avaient le droit d'avoir un crédit, c'est ça?
Oui, ils se sont.
Ok, ouais. Tandis que le système monétaire, ils ne peuvent pas développer le pays ou ils n'ont pas la meilleure science pour.
C'est, ouais. Exact, parce que les gouvernements d'Europe n'ont pas le contrôle sur leur monnaie. Ils n'ont pas le contrôle sur le crédit. Donc, il va y avoir des... Là, je peux vous donner un peu des chiffres aussi. Entre quand on regarde la production en tonnes par année, juste en termes du fer, le développement, même ce que ça va créer en termes de capacité, après Lincoln, après que la guerre ait été gagnée et qu'il y ait un effort pour la reconstruction, même si ça a été bloqué, mais ça s'est pas fait exactement comme Lincoln le voulait. Mais le développement en termes de production, juste en termes de fer, ce qu'on appelle le iron ore, en 1865, 193 000 tonnes de fer étaient produites. Moins de 10 ans après, en 1873, là, on était rendu à 1 195 000 tonnes. Ce qu'ils ont appelé le pig iron, en 1865, 823 000 tonnes par an. En 1973, 2 548 000. Le nécessaire pour les rails, les chemins de fer, en 1865, c'est 318 000 tonnes de produits pour bâtir les chemins de fer. En 1873, 893 000. Et évidemment, à l'époque, c'était le charbon qui était utilisé le plus pour faire avoir la puissance pour la locomotion et autres. Donc, la production en tonnes en 1865 du charbon, c'est 24 millions. Et en 1873, 58 millions de tonnes. Donc, ouais, ça... En plus, peut-être, je peux vous donner le kilométrage en termes de, ou en milles, des chemins de fer. Ça passe de 1865 à 1890. Ça va tripler. Ça va passer de 45 000 milles de chemins de fer à 167 000 milles de chemins de fer. Ça, c'est en milles.
Miles.
C'est pour ça que je disais 167 000 milles.
Au total.
Ça, c'était en
1890,
ouais. Ouais. Maintenant, le développement. Non, juste pour revoir, l'intention derrière ça, c'était non seulement de gagner une guerre, mais de permettre de resituer les Américains en fait montrer, donner un exemple de la de ce qui était en fait nécessaire de faire pour développer des nations qui auraient le bien-être commun comme point central de leur politique. Puis là, ben, face à la crise actuelle, on se retrouve avec les mêmes dogmes, les mêmes problèmes de conception dans les milieux financiers. Là, on peut plus simplement penser à bâtir des chemins de fer. On peut plus simplement penser à rebâtir ce qu'on a perdu. Mais il va falloir, avec cette idée-là de comment Lincoln a été capable de le faire à l'époque, il va falloir en fait étendre nos horizons et montrer que on peut se rendre bien plus loin. Voilà.
Tu peux retourner aux autres diapositives de chemin
Ouais.